Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, une vie qui bascule. Un surveillant de prison devenu otage. Menacé, pistolet sur la tempe, couteau sous la gorge, son calvaire prend fin après 4 heures de cavale, à 300 km de là, et il est encore en vie. Bonne écoute. Alexandre, on est allé le chercher. Son histoire nous avait été racontée par un autre surveillant qui nous avait dit « Alexandre, c'est mon pote qui était pris en otage à Moulins et ça fait des mois et des mois qu'on lui court après, ça fait des mois et des mois qu'on l'espère. Maintenant, il est à La Réunion, il a été muté à La Réunion, c'est pas facile d'aller là-bas. » Et il passe par Paris, il a une réunion syndicale. C'est lui qui nous appelle en disant « Les gars, je peux venir. » On voit arriver un gaillard, jovial, avec une bonne gueule, qui se pose en face de nous. Et il nous raconte ce truc. Et là, on hallucine, quoi.
Il me montre un pain de plastique, il me dit « Bah voilà, on va te faire péter. »
De l'explosif.
De l'explosif. Réflexe peut-être d'ancien militaire, je me mets sous le bureau, je mets une chaise devant moi, j'essaye de me calfeutrer parce que je sais que je vais prendre le souffle d'explosion ou même exploser. Hein. La porte d'entrée qui m'appelle en me disant « Bah Alex, tu restes en contact, tu veux parler à quelqu'un ?» Je fais « Bah non, je veux parler à personne. » Parce que là, j'ai juste besoin de dire au revoir au mien parce que je me suis vu mourir. Je me dis, bah, je vais mourir. Je fais donc là, non, j'ai pas besoin. Là, ça y est, c'est fini. Là. C'est trop tard. Il y a un pain de plastique sur ma porte, donc j'ai raccroché.
Depuis cet après-midi, deux détenus de la maison d'arrêt de Moulins, dans l'Allier, sont en fuite.
Réputés particulièrement dangereux, se sont évadés à l'aide d'explosifs.
Le préfet de l'Allier a demandé l'intervention du GIPN dès que nous avons appris cette information.
Armés d'un pistolet, les prisonniers ont volé plusieurs véhicules. Ils rouleraient actuellement à bord d'une Audi sombre sur les routes du département du Loiret.
L'instant où j'ai été pris en otage.
Chez Lévi Souvanadin, on est gardien de prison. Comme si c'était génétiquement quelque chose de non modifiable. Et il choisit la centrale de Moulins-Isère.
Alors, je me rappelle à l'époque mon père qui me disait « Oh là là, si tu vas en centrale, attention, là c'est du lourd. Hein. » C'est vrai qu'en centrale, on a un peu surtout ouais. À Moulins-Isère, on avait le top 10 de France au niveau de la population pénale. Mm-hmm. Donc il y avait un peu d'inquiétude, mais bon, j'étais très bien. Hein. C'est un métier vraiment qu'on ne fait pas forcément par conviction, mais qu'on apprend à aimer.
Dans l'administration pénitentiaire, il y a des centres pénitentiaires, des maisons d'arrêt, des centres de détention. Et il y a les maisons centrales. Et c'est très souvent des longues peines. On est dans des profils que les surveillants connaissent bien. C'est-à-dire que tout se passe bien jusqu'au moment où ça bascule.
Je suis affecté à la surveillance des parloirs avec mon collègue Arnaud. C'est un dimanche.
C'est le jour des familles.
On a des détenus qui sont éloignés géographiquement de leur famille. Je prends l'exemple de détenus basques où les familles vont faire des kilomètres pour venir. Donc on a des parloirs assez longs. On va prendre en maison d'arrêt, on va être sur une heure de parloir. En centrale, les familles peuvent bénéficier des fois d'une journée entière. Donc les box étaient fermées avec des portes. Je suis resté toute la journée, donc toute la matinée, un tour de parloir. L'après-midi, on revient en surveillance avec mon collègue. Sur ces 4 heures de parloir, on appelait ça une remontée intermédiaire. C'est-à-dire que si des familles devaient partir ou mettre fin au parloir, un des deux agents allait faire un tour des box pour savoir qui voulait mettre fin à son parloir afin d'effectuer une remontée en cellule intermédiaire. Donc à 16 heures, mon collègue Arnaud va faire le tour. Moi, je suis alors au poste de commande. Hein. C'est un poste avec des caméras, avec des boutons. Moi, je me renferme dans ma guérite et je dois faire passer Arnaud du côté du parloir en ouvrant cette porte à serrure électrique. Et c'est là où on ne voit pas arriver, qu'on passe de la normalité au cauchemar. Je revois encore le détenu Omar Topelage qui est au niveau du distributeur. Il y a un distributeur de friandises et de boissons. Pour moi, c'est anodin qu'il soit au niveau de ce distributeur au moment où le surveillant va rentrer. Voilà, il n'y a pas de procédure pour en disant qu'il faut qu'il y ait personne distributeur quand le surveillant rentre. Il n'y a rien qui est écrit là-dessus. Donc pour nous, c'est tout à fait banal. Et au moment que la porte s'ouvre, je vois Omar Topelage qui saute, hein, parce qu'il avait juste allé prendre un bon pas d'élan. Un coup de poing sauté à Arnaud, mon collègue surveillant. Qui est sonné tout de suite avec la violence du coup de poing. Et il arrive à tenir cette porte ouverte. Donc là, on touche directement à la sécurité de cette porte qui est ouverte, qui donne un accès vers la porte d'entrée. C'est la porte aussi qui sert d'entrée pour les familles. Mais ça va très, très vite. Dans la seconde, je vois Christophe Kider qui sort de son box. Il prenait sur la tête une sacoche banane et une arme de poing à la main. Quand j'ai vu l'arme, tout de suite, on me dit dans le jargon, je pète l'alarme. Hein, donc on a un Motorola avec un bouton d'alarme. Et j'annonce tout de suite prise d'otage parce qu'ils avaient attrapé Arnaud. Ils avaient laissé cette porte ouverte. Donc Arnaud était sous la menace de l'arme et en marteau-pellage. J'arrive même à annoncer l'arme. C'était une arme de 9 mm. Ça part très vite. Kider qui me fait des sommations à travers la vitre. Hein. Il y a un interphone pour communiquer qui me demande d'ouvrir les autres portes parce qu'il n'y a que moi qui avais le contrôle sur ces portes-là. Mais à partir du moment où j'ai enclenché l'alarme, moi, je perds la main. C'est-à-dire que toutes ces fonctions sont coupées automatiquement par le poste central. Même si j'aurais voulu ouvrir, j'étais vraiment pris dans cette cage complètement... inutile, hein, surtout. Hein. Donc, j'avais juste à subir ce que je voyais. Donc,
qu'est-ce que tu vois ?
Je vois Arnaud qui se remet de son chaos. Top Elage qui a une canette dans la main et qui menace de le tabasser jusqu'à ce que j'ouvre. Kider qui prend l'interphone, qui me menace en me disant « Ouvre, sinon, il me montre qu'il a de l'explosif. Sinon, on va déjà te faire péter dans ton bureau. Tu vas crever dans ton bureau, surveillant. De toute façon, moi, j'ai aucun pouvoir sur les commandes. » Donc j'assiste quand même à la violence gratuite sur mon collègue qui se fait écraser une canette sur la figure. Là, ça sonne dans tous les sens, au Motorola, le téléphone qui sens. Je suis sous pression et donc j'annonce la porte d'entrée. Donc le chef, le premier surveillant me parle.
Qu'est-ce qui se passe ?
Donc je dis en détail tout le contenu là de l'action, de ce que je peux observer. Le premier surveillant me conseille de me mettre à l'abri des regards pour éviter justement toute pression. Alors, à savoir qu'en plus, ce poste, il n'y a aucune issue de secours. Il n'y a qu'une porte. C'est-à-dire que dans certains postes sécurisés comme ceux-là, on a une porte de repli pour éviter tout moyen de pression sur une prise d'otage. Parce que voilà, là on est dans l'humain et des fois, il vaut mieux se retrancher et puis on laisse soit le RAID, le GIGN. Donc là, j'ai aucun chemin de repli. Donc, je ne peux assister qu'impuissant à toute cette action. Je vois Kider qui encore me parle à l'interphone. On me dit, écoute, tu veux pas ouvrir, tu vas crever.
Ceux qui sont en face, c'est pas n'importe qui. Le premier, Christophe Kider, il a une condamnation à 30 ans de prison pour une affaire de braquage qui a mal tourné. Il a voulu prendre la voiture d'un automobiliste qui refusait de lui donner sa voiture. Il y a eu une altercation, une bagarre. Et dans la bagarre, un coup de feu est parti. L'automobiliste a été tué. Christophe Kider a toujours dit que ce n'était pas intentionnel. Mais il était condamné. Il a pris 30 ans. Son complice, détenu aussi, c'est Omar Topelage. C'est le même profil. Braqueur, déterminé. Lui, il est en prison pour avoir tiré sur un policier avec une Kalachnikov. Kider, c'est quelqu'un, comme tout un tas de condamnés d'ailleurs, à des longues peines, difficiles à garder en prison. Il est sur la liste de ceux qui s'évadent ou qui tentent de s'évader. Et ces deux-là, ce sont des gars qui ont déjà tenté de s'évader. Christophe Kider, il a essayé de s'évader de la prison de Fresnes. Son frère est arrivé en hélicoptère, lui a lâché une corde qui était trop courte. Il avait un sac avec des armes. Il a lâché le sac sur le toit de la prison avec les armes. Bon, ça s'est mal passé, ou en tout cas, ça s'est bien passé pour l'administration pénitentiaire. Christophe Kider n'a pas réussi à s'évader. Mais voilà, ce sont deux gars qui sont déterminés.
J'entends que ça bidouille sur ma porte. Et il me montre un pain de plastique, de l'explosif. Il me dit, on va te faire péter. Réflexe peut-être d'ancien militaire, je me mets sous le bureau, je mets une chaise devant moi, j'essaye de me calfeutrer parce que je sais que je vais prendre le souffle d'explosion ou même exploser. Hein. La porte d'entrée qui m'appelle en me disant « Alex, tu restes en contact, tu veux parler à quelqu'un ?» Je fais « Non, je ne veux parler à personne, parce que là, j'ai juste besoin de dire au revoir au mien, parce que je me suis vu mourir. » Je me dis « Je vais mourir. » Je fais « Donc là, non, j'ai pas besoin. Là, ça y est, c'est fini. Là. C'est trop tard. Il y a un pain de plastique sur ma porte, donc j'ai raccroché. » Là, j'entends mon collègue Arnaud, j'entends un peu ce qui se passe à travers la porte, qui leur dit « Mais non, ça sert à rien, pas là, vous allez le tuer. Puis il n'y a pas de commande, vous n'aurez rien. De toute façon, même en pétant dedans, ça avance pas. » Donc voilà, il assistait, parce qu'il savait que j'allais y rester, si le pain était resté où il était. Donc ils déplacent la charge, mais qu'ils arrivent à poser sur la porte d'en face, qui amène un peu plus proche de la porte d'entrée principale. Je crois que Christophe Kider quand même donne des consignes en disant aux familles, allez, poussez-vous, allez au fond, allez au fond, de mettre un peu les familles aussi en protection, en avertissant que ça va péter. Ils mettaient un détonateur et de la mèche lente. La mèche lente, voilà, je sais plus, ça se chiffre en secondes, hein, suivant un tel centimètre, c'est tant de secondes.
La mèche lente, c'est du cordon,
voilà,
hein, cordon d'une certaine longueur. Auquel on met le feu avec un briquet.
Voilà, qu'on allumait, c'était des tout petits morceaux, je voyais à travers la vitre et tout. Et donc Kider, sous la menace de l'arme, envoyait mon collègue Arnaud allumer la mèche lente. Mais quand je voyais cette longueur de mèche lente, je me dis... Mais
ça allait péter tout de suite.
Ouais, ça lui pétait dans la gueule, quoi. C'était juste ça. Donc, et j'entendais donc Arnaud qui disait « Non, je veux pas ». Donc sous la menace de l'arme, il a été envoyé pour allumer la mèche lente. Et là, c'est le boom. Donc là, c'est le chaos. Donc là, c'est le trou noir, hein, parce que ça souffle ma porte en même temps. Tous les faux plafonds que j'avais, tout s'est effondré dans mon bureau. Ça avait tout ravagé mon bureau. J'étais en dessous, dans un chaos. Et à un moment, j'entends Christophe Kider et Omar Topelage qui arrivent. Surveillant, t'es mort. Donc essayer de me réanimer, parce que j'étais vraiment chaos. La porte est ouverte, tout a été soufflé, en fait. Alors imaginez si la charge était vraiment posée sur ma porte. Ils l'ont déplacée au dernier moment. Et quand on voit qu'une porte avec des murs de 60 cm arrive à voler, tout était effondré. Dans les décombres, j'avais des plaques sur moi de faux plafonds et tout. Donc, ils me sortent des décombres.
Encore conscient ?
C'est là où je reprends mes esprits. En fait, voilà, c'est vraiment l'effet blast, c'est un chaos, hein, qu'on comprend. Hein.
L'effet blast, c'est l'effet de souffle.
L'effet de souffle, voilà. Et là, pour moi, ça a bien duré peut-être 10 secondes. Hein. On a l'impression d'être dans un film, parce qu'on voit des images où on entend des voix lointaines. T'es mort. Et puis, ça revient tout doucement. Ça vient de voir, on reprend ses esprits. On reprend ses esprits et on constate. Il y a de la fumée, c'est une scène de guerre. C'est complètement l'odeur, toute la poussière, hein, des murs qui ont volé en éclats.
Derrière, les familles, les enfants, ça crie, ça...
Ça hurle, ça crie, ça court un peu dans tous les sens. On se retrouve maintenant au contact. Deux otages, deux preneurs d'otages. Tout de suite, bah, on fait le compte, il y a une monnaie d'échange, on va dire, en plus. Hein, deux agents, on peut en supprimer un pour faire pression. Donc c'est... Ça va vite, en plus, dans la tête. Hein, ça va très vite, tout de suite, dans ma tête. Vu la configuration du parloir, les issues et tout, après, quand on a vu un peu de film, qu'on s'intéresse un peu à l'action, on s'est dit, bah, alors là, s'il y a soit le raid GIGN qui arrive, là, on est parti pour 24 heures, 48 heures. Parce qu'à aucun moment, il y aura un angle de tir. Moi, j'avais déjà dans ma tête, oula, je me suis fait le film, je dis, mais on est pris, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ça va être très, très long.
Donc, toi, tu veux pas que le raid ou le GIGN vienne. Ton intérêt, c'est que ça se règle rapidement entre vous.
Bah déjà, c'est d'apaiser, d'essayer de discuter. Bon, le but, c'était d'être actif, peu importe dans quelle mesure, mais il faut que ça se passe, quoi. De toute façon, eux, ils étaient sur cette volonté de sortir, et c'était d'avancer. Ils n'étaient même pas prêts à attendre non plus qu'il y ait une intervention, parce qu'ils avaient l'équipement pour sortir. Ils avaient le plastique, ils avaient l'arme, ils avaient encore de quoi faire sauter des portes. Donc voilà, on s'est dit, de toute façon, on ne va pas rester dans ce parloir pendant 24 heures. Là, on arrive sur une autre porte qui n'a pas été soufflée et qui donne accès vraiment sur la zone, on va dire, l'accès au portique de détection et qui donne sur le poste central de commande. Hein. Donc là, il nous reste les trois portes avant la sortie. Donc, on est sur cette porte où il y a une petite lucarne vitrée. Il y a de l'autre côté, hein, on a des membres de direction, chefs de détention qui essayent de rentrer dans les négociations. Christophe Kider qui dit, bon, vous ouvrez, parce que sinon on va encore faire péter des portes. Et puis on va mettre les agents devant. Il repose un pain de plastique et colle nos deux têtes contre la lucarne pour montrer aux autres agents derrière que voilà, ça rigole pas. Et puis ils vont péter avec la porte, les agents. Donc là, on se retrouve devant le pain de plastique. Ça discute. Bah là, excusez-moi du terme, bah, on serre les fesses, on n'est pas bien. On se regarde, le regard avec mon collègue Arnaud, bah, ça y est, on va y passer encore une fois. Donc moi, je me dis, voilà, encore une fois, ça ne va jamais s'arrêter. Aucune négociation possible. Hein. Donc là, l'administration dit non, on ne cédera pas. Encore une fois, on est agent, on se dit, bon, on vaut peu de choses. Donc il y avait la détermination de sortir. Donc Christophe Kider, il savait très bien qu'il n'allait pas nous faire péter devant la porte, parce que derrière, une fois qu'il aurait fait péter, il n'a plus rien comme monnaie d'échange. Donc ça s'arrête sur un meurtre, on va dire, de deux personnes pénitentiaires, et puis il n'a rien gagné, il ne sera pas sorti plus loin.
Ils sont violents ?
Ouais, non, il n'y a plus de violence physique, c'est plus de la violence verbale dans la menace, afin de donner des injonctions sur des ordres. De toute façon, sous la menace d'une arme, je pense que la plupart des humains, on obéit, qu'on obtempère, on va dire. Là, je récupère une arme. Il y avait un local technique qui se situait au niveau de l'entrée des parloirs. Et cette porte a été aussi soufflée avec l'explosion. Donc, dedans, il y avait un couteau qui servit pour un casse-croûte. Et que Top et là, je récupère et qui s'en sert comme arme, en fait, pour mettre sous la gorge l'un des deux otages. Hein. Donc, un coup, moi, j'ai été. Alors, au tout début, c'est. Moi, je suis avec Top et là, j'ai avec le couteau sur la gorge. Donc, voilà, on sent cette lame bien appuyée. Donc, on est toujours sur la menace, soit sous de l'arme, soit le couteau.
Vous êtes devant la lucarne.
On est devant cette
lucarne. Le pain de plastique est posé sur la lucarne.
Voilà.
Et ils vont mettre le feu ou non?
C'est ça. Bah là, non, il n'y a pas de négociation qui aboutisse. Qui derrière dit, bah, on va faire péter la porte. Donc, Top et là, je me reprends avec le couteau sous la gorge, m'emmène plus au fond du parloir. Là, je vois des familles, parce qu'il y a beaucoup de détenus. Hein. Il y a peut-être 40 personnes tout confondues encore dans le parloir. Top et là, je m'amène devant toutes les familles rassemblées et beaucoup de détenus. Et avec le couteau sous la gorge, et là, je baisse pas la tête et je me dis, oh là là. Je dis, putain, je vais passer un sale quart d'heure, là, parce que tous les détenus, on souvent se dit, bah, on n'aime pas le bleu, hein, on n'aime pas le surveillant, et résultat, non, rien. J'ai tenu tête, et au contraire, bah, j'ai repris le dessus en donnant un peu des consignes. J'ai dit, restez là, protégez vos enfants et tout. On avait Ayitaï Belkacem.
Les attentats de 95.
Exactement, qui était là avec sa petite fille, où je lui avais dit, ramasse ta petite, là, parce qu'elle était haute, elle était pas haute, hein, elle marchait à peine, je pense, et je lui ai dit, ramasse ta fille, va te protéger là-bas dans le parloir. J'arrive quand même à donner des consignes en disant, allez au fond, aux familles, aux détenus, allez vous protéger, mettez-vous à l'abri, allez, cachez-vous, ça va
aux
péter,
enfants.
Ça va péter, aux enfants, aux adultes, aux femmes, ça criait, alors dans l'endroit le plus reculé, de tous se regrouper. Moi, j'étais encore la bouche pleine de poussière, avec le souffle que j'avais eu. Donc, quand même, Top et là, je me demandais si je voulais boire. Donc, on trouve une bouteille d'eau qui traîne par là pour se rincer. Et il me dit, bah, de toute façon, ça va péter. Kider qui nous donne les consignes, toujours. Hein, c'est Arnaud qui doit se faire le sale boulot. Sous la menace de l'arme, il renvoie Arnaud pour allumer le pain de plastique. Donc, Kider se met à couvert, pointe son arme sur Arnaud en disant, allez, va allumer. Donc, je vois toujours cette scène où Arnaud, voilà, il arrive, avec en plus un briquet qui marche mal, il fallait qu'il allume cette mèche tout tremblant. Moi, réflexe, c'est de se boucher les oreilles, ouvrir la bouche aussi pour cet effet blast, c'est des trucs, des moyens de protection. Donc, Arnaud, vite, allume, court en arrière et là. C'était limite. Donc, pareil, alors la deuxième explosion, poussière, effondrement. Et cette explosion a encore plus ravagé le côté porte d'entrée du portique. Il y avait une grande baie vitrée de la zone administrative qui avait volé en éclats juste avant l'explosion. Kider qui a un échange avec le chef de détention, qui est armé, qui dit à Christophe Kider, lâche mes agents, rends-toi, sommation, encore une fois, on est dans un film. Et Kider qui dit au chef de détention, bah, écoute, si t'as des couilles, viens prendre sa place, quoi.
Si t'as des couilles, prend sa place. Ça ressemble vraiment à Kider. Et quelque part, peut-être que Christophe Kider et Alexandre Vissouvanadin sont des gars qui ont le même mental.
Donc là, le chef de détention se replie. Au moment de l'explosion, Kider tout de suite s'engouffre. Et là, on est sur un échange de coups de feu. Donc nous, on est en bouclier humain, avec moi avec Omar Topelage et Christophe Kider avec Arnaud, avec l'arme. Et là, on se retrouve sur un échange de coups de feu, parce que le chef de détention était derrière de l'autre porte. Et je me rappelle que les balles, après, suite à l'enquête balistique, c'était logé en fait à 1m75. Donc moi, je fais 1m86. À quelques centimètres, on aurait pu la prendre, parce que voilà, on était vraiment au milieu de cet échange de coups de feu. On avance dans ces débris, donc les familles, les détenus restent. Il n'y a même pas de mouvement de masse, hein, reste cloîtré dans ce fond de parloir. Les détenus n'ont même pas essayé de sortir ou de participer à cette évasion. On avance à 4. Il n'y a plus personne, en fait. Là, on arrive vraiment sur un poste central de sécurité. C'est la porte d'entrée où il y a vraiment toutes les commandes de la prison, qui est encore fermée, hein, qui est blindée, tout vraiment fermé.
Où sont passés le directeur et tous les surveillants?
Ils sont à l'intérieur. Donc, ils sont repliés à l'intérieur avant l'explosion, hein, parce que Kider avait averti, il dit ça va péter. Donc là, on arrive dans une zone encore vide où il y a le portique de détection, il y a le tunnel à bagages X. Et voilà, là, on arrive sur une autre phase qui est encore plus de la négociation. Là, on n'est plus qu'à deux remparts de la sortie. Là, je vois mon collègue Arnaud, déjà, on a pris deux explosions. Il était sous la menace de l'arme, il n'arrivait plus à avancer. Les jambes qui tremblaient, et puis avec tout ce qu'il avait vécu avant. Puis je dis à Christophe Kider, prends-moi avec ton arme, parce que là, Arnaud, il n'en peut plus. Il craque, je prends-moi avec ton arme. Donc on a échangé, en fait. Donc en marteau-pelage, j'ai appris avec le couteau, et puis moi, j'étais avec Kider avec l'arme.
C'est quand même d'autant plus incroyable, cette prise d'otage, que ces deux preneurs d'otages prennent deux amis, deux frères, surveillants de prison en otage. L'un est le parrain de la fille de l'autre, et inversement, si on fait du mal à l'un, on fait autant de mal à l'autre. Et je pense qu'Alexandre, il aurait été capable de mourir pour Arnaud.
Arnaud, c'est toujours, hein, c'est un frère pour moi. À la base, déjà, on est très amis. Donc, cette histoire, on nous a encore plus renforcés dans notre amitié. Et voilà, je me retrouve avec l'arme avec Christophe Kider. Bah, sauf qu'à ce moment-là, Kider qui commence à discuter avec l'adjoint au chef d'établissement en demandant d'ouvrir les portes. Et il me demande de me mettre à genoux. Je me dis, bah, voilà, c'est le peloton d'exécution, parce que c'était un peu ce que demandait Kider. Hein. Il dit, bah, si tu n'ouvres pas, je fais péter le caisson. Et bah, qui derrière moi, je vois pas ce qu'il fait. Hein. Je vois qu'il y a des échanges hein, avec l'adjoint au chef d'établissement.
Tu te dis que tu vas mourir.
Ah oui, là, ouais, encore une fois. Je suis là, je suis aussi en train de supplier, hein, Kider. Je dis non, mais laisse-moi, quoi. J'ai un gamin, et mon gamin, il avait 5 mois. Je suis jeune papa et tout. Et je regarde le chef d'établissement. Le chef d'établissement, le contact visuel, je lui fais comprendre, ouvre les portes, quoi. Ouvre ses portes, j'ai pas envie de mourir, quoi. Mais parce que derrière, il va falloir vivre avec ça aussi. Je lui fais comprendre. Et là, cet adjoint au chef d'établissement, il fait un pacte avec Kider. Il dit à Kider, écoute, je t'ouvre les portes. Par contre, tu laisses la vie sauve à mes agents. Là, je me dis, ouf, enfin, quoi. Ça y est, qu'on va peut-être y arriver, quoi.
Il y en a un qui réfléchit.
Voilà, ça y est, il faut prendre ses décisions, même si. Il le savait qu'au fond, les textes ne l'autorisent pas, on n'ouvre pas. On ne cède pas au chantage, on n'ouvre pas. Mais c'est là, dans l'action, dans l'urgence, c'est là où des fois l'administration, après, va devenir très dure, parce qu'on va s'appuyer que sur des textes mais qui sont hors de toute humanité. Et là, bah, il donne l'autorisation d'ouvrir les portes. Donc, Kider, qui sait très bien comment ça fonctionne dans une prison, et qui dit, par contre, tu dis à tes miradors, là, de ranger leurs fusils. Ils s'attendaient que sur une sortie, il va se retirer dessus, quoi. Donc là, c'est tout un cinéma aussi pour sortir. Donc, la porte s'ouvre. On arrive à la bloquer. Il y a un fauteuil roulant qui traînait par là. Dans un fauteuil roulant, on peut cacher des choses. Donc, il y a toujours un fauteuil roulant qui traîne par là. Et donc, Kider, il fait ouvrir la porte et il lance le fauteuil dans le chemin de ronde pour voir s'il y a une action, s'il y a des tirs, des coups de feu, des tirs réflexes des agents. Il me fait mettre la tête dehors en me disant, il me dit, regarde s'il y a les miradors, si les fenêtres sont ouvertes et tout. Et là, je dis, bah oui. Puis moi, voilà, je me suis dit, non, ça va partir en cacahuète. Oui, c'est ouvert. Kider, qui est redit au chef d'établissement, dit à vos agents de fermer, de ranger leurs fusils. Mais moi, je crie dans le chemin de ronde, les gars, baissez vos armes, je rangeais tout ça. Et là, on est vraiment dans l'humain et dans l'appréciation. Même moi, je n'ai pas confiance en mes collègues, on ne sait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui veut être joué au héros. À ce moment-là, je dis à Christophe Kider, avant le passage de porte, hein, je lui dis, écoute, si tu dois me tuer, fais-le proprement. Parce que voilà, moi, j'ai toujours eu peur de l'handicap, puis voilà, je connais les armes à feu. Je lui dis, si tu dois me tuer, fais-le proprement. Et là, il me dit, t'inquiète pas, surveillant, je te tuerai pas. C'est rassurant, mais on ne sait pas ce qui va se passer. C'est la grande inspiration, et on sort dans le chemin de ronde, et là, je vois un collègue hein, qui a un genou à terre, que je n'avais pas vu sur la première ouverture de porte, avec un fusil braqué sur nous. Et là, c'est un peu aussi l'espace-temps qui s'arrête. Kider le voit à ce moment-là, et moi, je suis toujours en joue, donc Kider qui pointe l'agent, qui dit « baisse ton arme ». Il me dit « mais dis à ton collègue de baisser son fusil, sinon je vous tue, quoi ». Et là, je pareil, dans le regard, je regarde mon collègue, je fais « fais pas le con, baisse ton fusil ». Mais on a l'impression que cet instant, il dure, ça dure 2 secondes, mais c'est 30 secondes, c'est bloqué. On va vraiment, on se dit « mais j'ai envie de lui faire comprendre, mais non, joue pas, quoi, t'es pas un héros, baisse ton fusil ». Perte de patience, Kider tire 2 coups de feu en sa direction. Donc le collègue se replie, il riposte pas. Heureusement, parce que là, l'échange de coups de feu aurait été dramatique. Quelqu'un qui serait resté sur le carreau. Donc, nous voilà arrivés, donc les miradors fermés, arrivés à la dernière porte que le directeur aussi s'est engagé à ouvrir. Et là, on se retrouve sur le parking. Mais avant ça, je me souviens les mots hein, du chef de détention, avant les premières négociations, qui nous avait dit « De toute façon, t'es cerné, il y a 50 policiers dehors, tu sortiras pas, t'iras pas plus loin et tout ».
Moi, donc, il y a 50 policiers sur le parking.
Je me dis, bah voilà, on va ouvrir cette porte et allez, encore une dernière étape, va falloir encore affronter ça. Et là, ouverture de la porte. Rien. Le néant. Personne. Parking. Vide. Au loin, je vois un attroupement de surveillants avec des fusils à pompe qui marchent en bande, même pas postés, rien. Donc, moi, tout de suite, je dis oh, restez où vous êtes, ça va aller. Donc, j'essaye de rassurer au maximum mes collègues. Je suis en bouclier humain. Moi, je veux que personne tire, en fait.
Les collègues, qu'est-ce qu'ils voient, eux ?
Ils me voient avec une arme sur la tempe et Arnaud derrière avec un couteau sur la gorge et sortir de l'établissement. Donc, ils sont peut-être une dizaine armés, un peu au loin, hein, mais on est surveillant pénitentiaire. On n'est pas normalement amené à faire face à des actes de guerre. Donc, je leur dis, les gars, repliez-vous et je rassure les gens, ça va bien se passer, c'est bon, allez. Se dirige vers le parking des véhicules des familles, qui dit qu'est-ce qu'on fait un martopelage, il fait tiens, il y a une Renault 21, celle-là, c'est bon, je sais la faire démarrer. Qui dit toujours sur un déplacement assez tactique où je suis toujours en bouclier humain, c'est-à-dire je fais face au mirador. Et au martopelage avec Arnaud, voilà, donc il pète le carreau de la voiture. Pareil, un film, hein, c'est des choses qu'on ne vit pas dans son quotidien. À faire les fils. À faire démarrer la Renault 21, qui appartenait à la famille d'un détenu. Hein. Donc, martopelage s'assoit au siège conducteur, et il fait mettre Arnaud sur le côté passager, et moi je suis derrière avec Christophe Kider sous la menace de l'arme. Donc Kider, il a l'angle sur nous deux, c'est l'un qui bougeait, donc toujours la menace de l'arme de 9 mm. Ça démarre. On se retrouve vraiment à l'entrée du parking, et là, nous demande où est-ce qu'il y a un aérodrome. On est à Moulins, on est quand même à Moulins-sur-Isère, il n'y aura pas d'aéroport, donc en fait... Ils savaient même pas par où partir, en fait. Gauche, droite, c'était vraiment de l'improvisation totale. Ils s'engagent sur la droite, on arrive sur un axe principal, mais la voiture, les fils ne tiennent pas, ça arrête pas de caler, il faut refaire démarrer. Mais là, le plus surprenant, c'est qu'il n'y a toujours pas de policiers, il n'y a personne. Hein, là, on se sent un peu seul au monde, ça part, et puis personne. On fait même pas un kilomètre sur un axe fréquenté, en fait, qui allait vers Toulon-sur-Allier, hein, qui est une ville juste à la sortie de Moulins. Il y a vraiment une file d'embouteillage sur la voie de côté. Nous, la nôtre était assez libre, sauf que la voiture, qui n'arrêtait pas de caler, pas puissante, ils décident d'aller percuter la file d'en face. Je me rappelle, il y a une panique totale, parce que les gens nous voient sortir en uniforme, Kider qui avec son bonnet, avec son arme de poing qui nous menace. Panique totale, il y a des gens qui traversent le terre-plein, ça part dans tous les sens, ça fuit, même au risque de se faire écraser. Hein, ça part dans tous les sens. Et ils menacent, je me rappelle, c'était à mon avis une famille qui rentrait de vacances avec les enfants, un couple, Kider leur donne les injonctions de quitter le véhicule, on vous prend votre voiture, descendez, donc c'est vrai que c'est assez rapide. Hein. Je me rappelle, il y avait un chien, donc on fait sortir tout le monde, jeter les bagages sur la route, la dame aussi qui voulait son sac à main absolument, et je me rappelle qu'il s'accrochait à son sac, donc il a récupéré son sac à main, et nous voilà retraverser le terre-plein pour repartir dans le sens de circulation. Il y a un GPS, ils partent un peu dans leur discussion avec Topelage et Kider. Faut balancer le GPS par la fenêtre parce que peut-être qu'il y a un traceur. Vraiment dans le film d'action, bon, je voyais pas trop l'intérêt, donc ils balancent le GPS par la fenêtre. On se retrouve sur une voie rapide direction pour aller à Paris. On voit les panneaux, on se voit à Moulins, c'est très vite fait d'aller sur cette rocade qui passe par Devers, qui va monter sur Paris. Toujours pas de policiers. La voiture, bon, pareil, hein, qui n'avance pas forcément à leur convenance. Arriver plus loin, il faut taper une autre voiture. Donc même procédé, on est à la sortie de Moulins, pas loin de Nevers. Là, ça a percuté la file d'en face. Et on tombe sur une belle Audi A4, une grosse berline quand même, allemande. Et c'était un couple de personnes âgées avec leur petit-fils dans la voiture. On percute ce véhicule, pareil, on descend. Kider qui menace le conducteur. Et là, derrière, à ce moment-là, il y a une voiture de gendarmerie qui arrive. Hop. À main qui se met en travers, sortie des armes, et là c'est sommation, lâche ton arme et tout. Kider il a fait comme s'ils n'existaient pas en fait. Allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais lui il était sur ce braquage de voiture, il était même pas sur cette discussion avec les gendarmes.
Il les a même pas calculés.
Il veut cette voiture, il veut partir, mais il n'y a pas eu d'échange. Je pense qu'il était assez aguerri sur de l'évasion, je pense que c'est quelqu'un qui est intelligent et il se dit il n'y a que s'il tire qu'il y aura un tir de riposte, il ne va pas se faire désarmer comme ça. Donc lui, il est assez serein, il est sur cette voiture qu'il veut prendre.
Il maîtrise.
Il maîtrise. Il y a toujours cette maîtrise. Il a toujours eu le doigt sur la gâchette. Moi, j'ai toujours surveillé. Il n'y avait pas de perte de contrôle, il y avait un certain sang-froid. Donc c'est pour ça qu'on passe de cette extrême violence à l'intérieur des murs, de menaces pour obtempérer. Et on passe sur quelqu'un d'encore plus dans du sang-froid. Il savait ce qu'il faisait, même s'il n'y avait rien de préparé sur la sortie, il n'y avait pas de comité d'accueil, mais il y avait quand même un certain sang-froid. Donc là, on arrive, on est face à cette personne au volant, tétanisée, Je me rappelle les mains encore sur le volant, qui se demandent mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi. Et au moment de prendre justement cette deuxième voiture, ils voulaient garder les otages en fait. Et non, j'ai dit non, tu nous lâcheras quand tu seras seul en fait. Mais on ne voulait pas qu'ils prennent d'autres otages. On a essayé d'assurer au maximum notre mission de sécurité publique. Voilà, on gardait cette place. Il était hors de question. Moi, j'aurais pas pu laisser partir Kider avec cette famille, avec ces deux personnes âgées. C'est-à-dire que non, on reste. Donc j'arrive quand même à donc Kider qui lui dit sors, sinon tu vas mourir. Sors de ta voiture. Et là, je dis à cette personne, je dis, non, mais sortez, monsieur, ça rigole pas, il va vous tuer, sortez de la voiture. Donc, j'arrive à le ramener à la raison, il sort de la voiture. La dame aussi, elle est sortie. Kider, qui me pousse pour aller s'installer sur le siège arrière, dans la même procédure. Hein. J'étais à l'arrière avec Christophe Kider, et devant Omar Topelage qui conduisait tout le temps, et mon collègue Arnaud en côté passager. Et là, je me rends compte qu'il y a un enfant dans un siège auto. Et là, j'ai Christophe Kider, je fais non, mais il y a un enfant, il faut le laisser sortir et tout. Donc, Omar Topelage était pressé pour partir. Non, on garde et tout. Je fais non, il faut le laisser. Donc, j'arrive quand même à Kider, quand même à discuter, où on dit à la dame, récupérez votre enfant, le petit-fils, hein, je pense. Hein. Donc, elle l'arrache presque du siège auto, limite, elle lui a arraché le bras, mais voilà, elle sort vite l'enfant. Heureusement qu'on n'est pas parti avec l'enfant. Nous revoilà repartis sur la route. Donc là, avec une voiture beaucoup plus puissante. Et là, ça fonce. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on commence à entendre à la radio plan épervier. On entend que bah, là, tout était bouché. On va s'engager sur l'autoroute. Pas loin, des fois, je regarde le compteur du 200, 230. Les barrières de péage qui volent comme du papier. On voit que chaque sortie était bouchée hein, par des gendarmes. Hein. C'était plan épervier. Ils savaient très bien où on était. Il y avait un hélico. Donc là, pareil, il y a toutes les stratégies qui échangent. Nous, on assiste à tous les échanges qu'il a avec Omar Topelage en disant Omar Topelage, ou je ne sais plus, un des deux, je n'irai pas dire de bêtises, allait percuter une voiture de gendarmes sur une des sorties pour aller récupérer de l'armement. Donc là, on s'est dit, oh là là, ça va chauffer encore. On va tomber sur des jeunes, hop, on va les menacer, on va prendre les armes, ça va nous faire des... Parce que ça va chauffer après. Donc Kider, tout le long, il s'attendait à avoir vraiment un comité d'accueil, soit sur une aire de péage. Donc moi, il me disait... Donc, dès qu'on arrivait à un péage, il me disait « monte sur moi ». Donc à chaque fois qu'on arrivait sur un péage, je faisais bouclier humain, je devais monter sur lui, recouvrir son corps, pour au cas s'il s'attendait à avoir des snipers, un échange de coups de feu sur des péages. Donc chaque péage, fallait que je me mette sur lui. Donc voilà, ça trace, ça roule, hein, ça roule très très vite. Là, il y a des échanges qui, d'ailleurs, m'expliquent. Pour lui, c'était la liberté ou la mort. On ne peut pas avoir des conditions inhumaines de détention, garder autant de temps. Donc voilà, c'était vraiment l'avocat de sa propre cause et de toutes ses longues peines. Il expliquait, de toute façon, c'est la liberté ou la mort. Donc il était prêt à affronter le moins de barrages de policiers et tout. Donc il était vraiment déterminé.
Kider, je crois qu'il était en prison jusqu'en 2052. C'était quelque chose comme ça. 2052, imaginez 40 ans de prison. Mais on répète souvent ça, ça devient des fauves. Non, ça ne devient pas des fauves. Ça devient des gens qui n'ont qu'une idée en tête, c'est s'en aller.
Il disait, tu te rends compte, tu es prêt à mourir pour 1 400 € par mois. Pourquoi tu fais que ce métier, quoi? T'imagines, tu es là, tu peux mourir pour 1 400. Exactement, et c'est vrai que là, on y réfléchit. C'est vrai qu'il n'a pas tort, forcément, parce que c'est surtout dans cette situation. Quoi.
Est-ce qu'au milieu de ce bordel, tu te dis quand même, maintenant il ne va pas nous tuer, il ne nous tuera pas? Tu commences à reprendre un peu espoir?
Non, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de désaccords entre Omar Topelage et Christophe Kider. Chacun avait sa vision de la suite des événements. C'était beaucoup d'engueulades. Hein. C'était chacun, hein, voulait aller à tel endroit, l'autre voulait à tel endroit. Topelage voulait nous garder au maximum et nous emmener dans une cité. Kider voulait faire autre chose. Et oui, c'était peut-être lui voilà, qui voulait récupérer de l'armement. Mais c'était vraiment de l'improvisation, mais beaucoup de discorde entre les deux. Et c'est à ce moment-là, justement, on n'y croit plus. Bah, déjà, il nous a dit qu'il allait nous lâcher rapidement. Plus les kilomètres défilent, plus on se dit que bah, peut-être que voilà, il n'a pas sa parole et puis il va jamais nous relâcher.
Dans les films, il y a un bon et un méchant, tout le temps, même chez les bandits.
Oui.
T'as ce sentiment-là, ce jour-là?
Omar Topelage, plus incontrôlable, dans cette adrénaline, mais qui était prêt à faire n'importe quoi. Et on avait voilà, Kider qui était plus de ce côté calculateur, sang-froid, qui savait très bien ce qu'il faisait. Pour anecdote, je me rappelle, on arrive à une station d'essence hein, quand même. Hein, on sort sur une aire, une station d'essence. Il faut aller faire le plein. Moi, je suis assis à côté de Christophe Kider et donc Omar Topelage fait le plein. Nous, on est toujours sur menace de l'arme. Là, je vois quand même que Kider ouvre sa banane. Je vois qu'il avait encore pas mal de munitions. Je vois du plastique. Il comptait ses cartouches, hein, parce qu'il faisait son compte, hein, il savait qu'est-ce qu'il avait dans sa sacoche. Et il a envoyé Omar Topelhadj payer, parce que Omar Topelhadj voulait partir. Kider s'est dit non, on va se faire repérer encore une fois de plus, parce que c'était aussi libre, hein. Il n'y avait pas de présence policière qui était à notre route. C'était vraiment ces sorties de route, de péage et tout, où on voyait certaines présences policières. Mais là, à ce moment, on va faire le plein sur cette terre. T'as son service, il n'y a personne. Kider, je pense, était plus dans l'optique, mais non, arrête, on va se faire repérer encore, va payer. Et normalement, il a été payé à la caisse, je pense qu'il en a eu pour 20 euros de gasoil ou un truc comme ça.
C'est surréaliste, non ?
Bah ouais.
Les mecs en cavale, armés, avec des otages, ouais, qui vont payer leur plein.
C'est ça.
Qui défoncent les barrières de péage, voilà, mais qui vont quand même payer le plein.
Payer le plein. Donc voilà, et là on repart, on écoute la radio, donc ils se tenaient au courant des actualités, et puis c'est pareil, là eux-mêmes ils se rendent compte que c'est le bazar, parce que le signalement il est donné à des endroits où on n'est pas du tout. Je me rappelle avec mon collègue Arnaud, on a eu un moment de regard, on ne savait pas si on devait rire ou pleurer, mais on entend, oui, a priori, les preneurs d'otages ont relâché un des otages à tel endroit. On se regarde, on se dit, mais non, on est encore les deux là, mais c'est quoi ce bordel? Et voilà, derrière, je me rappelle, nos épouses, elles, de leur côté, qui étaient en cycle de crise, entendent ça à la radio. Alors, qui est encore dedans? Qui est pas dedans? Lequel des deux? Qui est tout seul? Parce que tout le monde savait qu'on était le binôme infernal, hein, on a toujours fait la paire. Mais là, je me souviens de ce regard qu'on a eu en faisant style, ouais, bah d'accord, on n'est pas prêt d'être retrouvés, on n'est pas prêt, si déjà l'info, elle circule mal et tout, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne savait à ce moment-là où on était.
Et eux, dans la voiture, Topelhadj et Kider, ils font des commentaires sur ce qu'ils entendent ?
Non, 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 ils ne font pas. Ils sont encore sur la stratégie de qu'est-ce qu'on fait, où on va. Où ça monte en température entre les deux, parce que... Alors, il y a cette portion d'autoroute. À un moment, je pense que l'autoroute a été bloquée. On était tout seul pendant une demi-heure. On a eu l'autoroute. C'est là où Kider, je pense qu'il s'attendait à un barrage du RAID ou du GIGN, parce que l'autoroute était vidée. Je pense qu'ils avaient barré tous les autres automobilistes qui avaient ce plan épervier. Et en fait, avec la vitesse, on a récupéré la circulation normale, mais sur une demi-heure, on était tout seul. Ben, c'est là où ils ont pu se permettre de faire le plein. C'est là où il n'y a plus d'hélico, il n'y a plus de voiture de police. Et en même temps, ben, Omar Topelhadj qui continue à circuler très vite. Et Christophe Kider qui dit mais ralenti. Voilà, genre là, on passe inaperçu. Là, on va se faire remarquer. Donc les deux, voilà, c'était vraiment pas en accord du tout. Je reviens à la charge et je redis encore à Christophe Kider, je dis bon, comment on fait là ? Là, regarde, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus d'hélico. À la radio, je pense que voilà, ils savent même plus où vous êtes. Tu as donné ta parole au chef d'établissement, il faut que tu nous relâches. Donc là, Omar Topelhadj, je voulais pas. Il dit non, non, je me rappelle, on arrive sur la francilienne. On voit au loin des bâtiments, des cités. Et lui, je pense qu'il était de région parisienne, Omar Topelhadj. Il dit non, mais de toute façon, on va les amener dans une cité, dans une cave et tout. Bah, super. De surveillants, aller dans une cave, je sais pas, on va se faire lyncher, on sait pas, on peut se refaire le film. On se dit, c'est pour ça, on est toujours dans cette crainte. On dit, on va mourir. Au bout d'un moment, ça finit pas. C'est continuel. Et le seul à discuter, c'était à ce moment-là, Christophe Kider, qui avait donné sa parole, donc j'ai joué vachement là-dessus, et qui avait un peu plus de raison. Et je lui ai dit, je suis déçu, t'as dit que tu me relâchais. Et là, au moment, c'est lui qui donne l'ordre à Omar Topelhadj. Il dit, arrête-toi, en plein milieu de circulation, hein. Même pas sur le bas-côté, tout ça. Arrête-toi. On n'est pas loin du périphérique, on sort, on est sur le bout de la francilienne. Hein. Il donne l'ordre, donc il voulait pas, et s'il a dit, arrête-toi. Et là, il nous a dit, allez-y, descendez. Même on se regarde avec Arnaud, c'est un sketch, c'est vrai, c'est quoi, comment ça va finir? Donc on descend, et même ils s'en vont, ils nous font signe.
Quel signe?
Au revoir, on fait au revoir. Voilà, c'est un geste de la main, au revoir. Et là, on a envie de tomber, quoi, tout ce trop plein d'émotions. On n'est même pas encore rassuré parce qu'on est en uniforme au bord de la route, à moitié déchiré, avec les explosions et tout. Donc j'arrête le premier véhicule qui passe et on est tombé sur quelqu'un. Je pense que c'était un artisan qui avait une sorte de partenaire ou de kangou. Et je lui ai demandé son téléphone et on a pu appeler la police. Il nous a déposé quelque part où un équipe BAC nous a récupéré pour être au commissariat de l'Essonne. Les collègues étaient au courant. Ils étaient contents pour nous, les gars. Ils étaient tous en alerte. Hein, on vous recherche et tout. Donc, ouais, vraiment, on était super bien pris en charge. Hein, super bien accueillis. Tout de suite, hein, ça a été le coup de fil à la maison et à nos femmes, hein, pour rassurer tout le monde, hein, bien sûr, de dire ça y est, on est sortis, on est vivants. Et puis, elle s'effondre au téléphone et elle a pu faire le lien avec la femme d'Arnaud, parce qu'elles étaient aussi copines. Donc, y a très peu de mots, en fait. On n'a pas envie, là, tout de suite, s'étaler, parce qu'on est encore à chaud. C'est juste de dire c'est bon, c'est fini. Et on n'échange pas plus, j'étais pressé de rentrer, donc il fallait que je dise, faut que je m'acquitte de tout ce qu'il y a à faire, les formalités, laissez-moi tranquille, mais j'avais juste besoin de la retrouver, quoi, en vrai, c'était même pas au téléphone. les policiers nous amènent à l'hôpital, mais toute la presse était au courant qu'il fallait les zigzaguer dans les couloirs, passer à travers des buissons pour pouvoir rentrer dans l'hôpital, parce qu'on était attendu par des cortèges de journalistes. On passe 4 heures à l'hôpital, parce qu'on a eu une batterie d'examens à passer par rapport à l'effet blast, scanner et tout, de voir le médecin légiste pour voir s'il y a une ITT. Moi, j'avais perdu... sur l'effet blast, il y a presque rien, mais j'ai perdu je ne sais plus combien de dixièmes sur une oreille avec les explosions. Donc une surdité que j'avais temporaire, mais qui a fait des dégâts sur une oreille, par rapport à l'échange de coups de feu à la porte d'entrée. Et après, donc voilà, on est reçu, un psychologue et tout, ça dure jusqu'à minuit, donc là, sorti de là, ouais. Tout de suite, interrogatoire dans les locaux de la police, de minuit à 5h du matin, donc déposition, à chaud.
5h du matin, vous ressortez avec Arnaud sur le trottoir ?
Non, la police nous propose de nous mettre à disposition une chambre d'hôtel pour se reposer et pour retourner, je pense qu'après, bon, en concertation avec l'administration pénitentiaire, et non, avec Arnaud, on dit non, on veut rentrer chez nous, on a juste envie de retrouver nos familles. Voilà, je rentre chez moi. Sorti de là, on a envie de vivre, on devient épicurien. Je dis à ma femme, je suis vivant, j'ai envie de bien manger et tout. On se fait une petite soirée tranquillement en famille, de se retrouver. Le soir, 20h, le téléphone qui sonne. On me donne l'ordre de me rendre à l'établissement, station pénitentiaire, pour faire un peu le clair, station pénitentiaire. Donc ça m'agace aussi un peu, je suis fatigué. Et je me rends à l'établissement, donc là je fais face à deux messieurs. Et je me souviendrai toujours où on me demande... Monsieur, est-ce que vous croyez à la corruption ? Est-ce que vous pensez que ça existe, la corruption dans la pénitentiaire ? Je dis, je serais naïf de dire non, mais je dis oui.
Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire dire ?
C'est là où...
Ou qu'est-ce qu'ils veulent que vous ne disiez pas ?
C'est surtout que je dis que j'espère qu'il n'y a personne, et en même temps, il y a une question, vraiment, et pourquoi pas vous ? Et là, on se demande, mais vous voulez en venir où, en fait ? C'est, vous m'accusez, en fait ? Et en fait, ils essayent sur des schémas eux-mêmes de prouver par A plus B que, limite, un de nous avec Arnaud aurait été complice. Parce que pour eux, une centrale sécuritaire, l'armement, ça ne peut pas rentrer comme ça. Et c'est obligé qu'il y ait une complicité interne.
Tu le dis comment, cette quasi-mise en cause ?
Très mal. Très mal. Je sors de là, donc je suis agacé, je mets fin à l'entretien. Et j'ai dit à ma femme, de victime, je veux passer à mise en examen. C'est quoi ce cauchemar ? Ça ne s'arrête pas, en fait.
Tu connais la meilleure, maintenant il me soupçonne. C'est ou ça. Arnaud ou moi.
Voilà. Et là, on rentre comme ça, on dort pas, et on suit la presse. Le surlendemain, en regardant les informations, on apprend que les compagnes des détenus avaient avoué avec tous les détails de la manière dont les armes étaient rentrées, donc ils nous dédouanaient de toute possible complicité. Et là, on souffle, mais c'est des jours après, quoi.
On imagine le soulagement pour Alexandre et pour Arnaud d'apprendre qu'on sait maintenant comment sont entrées les armes et comment sont entrés les explosifs au parloir de la prison de Moulin-Isère, puisque ce sont les visiteuses de prison, compagnes de Kider ou Omar Topelhadj, qui ont fait entrer ce matériel.
Si demain vous arriviez avec un certificat médical qui dit que vous avez des broches dans un genou ou dans le dos, automatiquement ça va sonner. Mais il faut présenter un certificat médical. Donc le contrôle ne va pas plus loin. Donc justement, une des compagnes avait justement un certificat en disant qu'elle avait des broches dans le dos et petit à petit, le matériel était scotché à ce niveau-là. Donc ça sonne, on va même passer, le détecteur manuel au-delà du portique, bip 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 dans le dos, et c'est bon, passé, parce qu'on a un certificat médical alors qu'il y avait une arme.
Vous avez repris le travail quand, Arnaud et toi ?
J'ai repris 7 mois après.
Qu'est-ce que tu as fait pendant 7 mois ?
Beaucoup de procédures, juge d'instruction, reconstitution, qui a dû se produire sur les lieux. Là aussi, il fallait affronter les preneurs d'otages. On m'avait demandé si je voulais jouer mon rôle dans l'affaire, ou si on prenait un policier qui faisait plastron et qui faisait pour rejouer la scène. Donc toutes les scènes sont rejouées.
Donc évidemment, tu as demandé à ce que le policier joue ton rôle ?
Non, j'ai voulu le faire moi-même. J'ai voulu affronter aussi moi-même, et puis aussi c'était de montrer à Christophe Kider que j'étais encore debout, parce que pendant 5 heures, être sous la pression d'une arme, de plus être soi, montrer j'étais encore là et je pouvais encore faire face. Je me rappelle, moi on m'appelle pour ma partie et il y a un grand sas véhicule, ça fait une grande pièce là où les véhicules rentrent en prison, et il y a au moins 70 personnes entre les avocats, juges d'instruction, témoins, je sais plus, il y avait tellement de monde. Et je rentre dans cette pièce et Christophe Kider qui me regarde, mais en fait nos regards se croisent et puis je tiens du regard. Et ça va pas plus loin. Je sais pas dire de respect, mais c'est bizarre en fait. Même moi, je sais pas comment l'appréhender, ce regard. C'était aussi un peu hallucinant parce que, ou un moment où on joue la scène la plus dure, où je dois me retrouver à genoux, où là je dois reprendre le flingue sur la tempe, et je pense que ça se ressent sur l'humain. T'as un peu les épaules tremblotantes, parce qu'après, je suis pas un surhomme qui aurait pas dire qu'il a pas peur, mais de revivre, c'est de, on revient sur la scène en fait. Et là, Christophe Kinder, c'est limite une tape sur l'épaule en disant ça va aller. Voilà, c'est limite rassurant. Où je suis là, qu'est-ce qui se passe? Quand on sort de l'armée, on est grand, beau, fort, on est assez dur, endurci, et puis voilà, le fait de se retrouver soumis avec une arme, on se repose beaucoup de questions, et sur la vie, et qu'est-ce qu'on est comme père, comme môme, et tout. Donc il y a une phase de reconstruction. Donc, il fallait comprendre aussi ce comportement, cette relation qu'il y a eu là, ces discussions avec Christophe Kinder. Pourquoi cette reconstruction, pourquoi ça s'est passé comme ça, hein? Moi je me rappelle, un psychologue m'a expliqué, ce jour-là vous étiez qu'à deux, et là au milieu de 70 personnes, il est aussi perdu que vous. En fait, c'est un point d'appui en fait, hein, c'est un point d'accroche. Il fallait expliquer tout ça, quoi.
Incroyable aussi, le métier de ta femme.
Ma femme, elle est conseillère d'insertion de probation, et c'est elle-même qui avait le dossier de Marthe Pelage en suivi. C'est assistante sociale, on va dire, qui est là pour le maintien des liens familiaux, sur des parcours de réinsertion, des recherches d'emploi, c'est vraiment de suivi de la personne détenue sur le quotidien.
Elle travaille en prison.
C'est elle qui a géré tout ça, qui a dû retourner en détention à la maison centrale de Moulins 15 jours après les faits. Elle a dû retourner sur place, sur les lieux, en voyant encore tous les dégâts.
S'asseoir en face de Topelade, j'ai lui parlé.
Bah non, là, elle n'a pas pu, il n'était plus là.
Il n'était plus là, non. D'accord. Okay.
Mais après, elle l'a fait au tribunal.
4 ans après, c'est le procès.
Et voilà, encore une phase dans le procès où ma femme a pu avoir une tribune. Elle a pu venir témoigner sur la demande de l'avocat au prétoire. Là. Et elle a pu s'exprimer sur mon quotidien, sur ma vie. Et puis en plus, elle a donné 2-3 petits mots aussi à Christophe Kinder et Omar Topelage. Et c'est la seule fois dans le procès que Omar Topelage était excusé. Elle s'adressait à Christophe Kinder en marteau-pelage en disant que vous vous rendez pas compte, mais vous avez. Oui, il ne le dit pas, parce qu'en fait, j'étais beaucoup sur la retenue, sur mes émotions, et en fait, ma femme a dit tout haut ce que je ressentais tout bas. Et c'était un moment très éprouvant. Elle a pu dire que vous nous avez détruits, vous avez détruit un homme, et tout ça, elle l'a dit. Et les yeux dans les yeux, elle leur a dit en pleurant. Et que vous vous rendez pas compte, mais voilà, on vous a pas fait de mal, mais pourquoi vous avez fait ça? Et puis, elle acceptait pas le comportement de Marthe Pelage qui était dans la provoque. Et c'est là où lui-même, après, il a pris la parole, il s'est excusé, après avoir entendu ma femme, parce qu'elle est dans son métier, elle est professionnelle, elle y croit, elle était déjà sur un parcours de réinsertion pour Marthe Pelage. Donc, elle lui fait comprendre. Et puis derrière, elle s'adresse aussi aux compagnes, et elle s'adresse au juge en disant que, oui, si demain on doit prendre une position, notre avis, c'est des mères de famille, elles ont fait ça par amour, laissez-les sortir.
Elle a plaidé pour toi.
Ouais, c'est ça.
T'as pardonné?
J'ai pas question de pardonner. Et un humain, il fait quoi? Un humain, il est là pour sa liberté. Je sais pas comment j'aurais réagi si demain j'avais été incarcéré. C'est que Kinder, il se sent libre, peut-être dans son droit de chercher sa liberté. Chaque humain cherche sa liberté. Chacun son parcours de vie.
Retrouvez tous les épisodes de L'Instant Où sur le site de l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note. L'Instant Où, un podcast BFM TV, raconté par Dominique Rizet.